Radio Cité Genève, Viviane Devitt.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois Nadège Forestier, journaliste française, ayant collaboré au Figaro, à Paris Match, à de nombreux magazines. Bonjour Nadège.
Bonjour Viviane.
Tu viens d'écrire un livre passionnant, Henri de Rothschild, un humanitaire avant l'heure. Nadège, cet homme que l'on va découvrir au fil de cette interview est ton arrière-grand-père. Il est décédé en quelle année ?
Il est décédé en 1947.
Est-ce que tu as eu le temps de le rencontrer ? Ou est-ce que tu as un vague souvenir ? Tu étais tout bébé.
J'étais tout bébé, donc je n'ai aucun souvenir, mais j'ai une photo. Et j'ai une photo sur laquelle je devais avoir 6 mois, qui a dû être prise un an avant sa mort, et c'est tout ce qui me reste.
Alors remontons le temps, Henri de Rothschild est né en 1872, et le plus Rothschild des Rothschild écris-tu ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Je veux dire par là qu'il descend de 4 des 5 frères qui étaient les fils du fondateur de la dynastie Rothschild. À savoir que dans cette famille, on se mariait entre soi, ce qui en principe...
Entre cousins en fait.
Entre cousins, oui. Entre cousins. Étant donné que James, le fondateur de la branche française, a épousé sa propre nièce, qui était la fille de son frère, qui était à Rome, je crois. Enfin.
Et il n'y avait pas d'empêchement, on ne les empêchait pas de se marier entre eux, non ? À l'époque, on laissait faire.
On laissait faire, et non seulement on laissait faire, mais le père de Betty disait finalement, tant qu'à donner une dot, autant la donner dans la famille.
Oui, comme ça, c'était pas perdu.
C'était pas perdu, exactement.
Absolument.
Et le miracle, c'est qu'il n'y a pas eu d'anormaux, de bizarres, mais il y a eu que des hommes remarquables. En
ça,
gros.
C'est le côté formidable. Justement, on a gardé cette bonne hérédité dans la famille aussi.
Exactement. Donc, tout ça pour revenir au fait qu'Henri descend de 4 des 5 frères. Il descend à la fois de la branche anglaise et de la branche française.
Alors, il ne rentre pas dans le cadre familial, dis-tu aussi ?
Pas du tout, parce que très jeune, il sera le premier à ne pas vouloir rentrer dans la banque. Le premier, son père déjà collectionnait des livres et était beaucoup plus attaché à ses livres qu'à la banque. Mais il était rentré dans la banque, tandis qu'Henri, lui, toute petite, très jeune, s'est dit « Non, il y a beaucoup mieux à faire et je serai beaucoup plus utile ailleurs. »
Il en avait déjà le sentiment, très jeune donc, dis-tu. Pourtant, il a eu une enfance terrible, une enfance très solitaire, une enfance avec une mère quand même assez abusive. Enfin, aujourd'hui, on dirait abusive. Peut-être qu'à l'époque, c'était dans les mœurs du temps.
Je ne crois pas que c'était dans les mœurs du temps parce que c'était une époque où les mères s'occupaient assez peu de leurs enfants, finalement. Les enfants étaient élevés dans des nurseries. Et lui, ça a été le cas, il a été élevé avec une nurse allemande qui était extrêmement dure. Et rien n'était possible. Mais surtout sa mère était une femme de bien et de devoir. Elle-même, quand elle était jeune, avait eu une enfance très difficile parce qu'elle s'est occupée de sa petite sœur qui finalement est morte à 20 ans. Et elle a gardé de ça une espèce de souvenir ou d'une façon de vivre qui fait qu'elle a toujours été assez austère et assez triste et qu'elle a toujours essayé de faire le bien autour d'elle. Et c'est comme ça qu'elle a élevé son fils.
Mais quand on voit « mon fils doit être élevé dans l'ignorance complète des choses de la vie », c'est ce qu'elle dit quand elle engage son précepteur. C'est assez terrifiant quand même.
Assez redoutable. Mais étant donné que lui était finalement très intelligent, il a essayé de passer par la petite porte. Et d'ailleurs, ses premières aventures, il les a eues en faisant le mur.
Oui, alors on dit justement, tu dis aussi à un moment que ses seuls moments de bonheur, ses seules distractions, c'était quand il dînait avec sa sœur sous la surveillance de la nurse anglaise. C'est quand même assez... Comme distraction, il y a mieux, non ?
Pauvre enfant. C'est pas très rigolo, mais c'est pour ça qu'il est devenu assez timide, assez introverti. Mais comme il était intelligent, ce que je viens de dire, ça lui a permis de faire des choses. Au lieu que ça reste en lui, il a pu s'intéresser à des tas de choses qu'il pouvait faire en solitaire. D'ailleurs, il a commencé une collection d'autographes quand il avait 12 ans.
Oui. Une sérieuse collection d'autographes, on le verra tout à l'heure. Et à 18 ans, donc, il décide d'être médecin.
Tout à fait.
Ça, c'est quand même très très jeune aussi pour décider d'une vocation aussi importante.
Alors, il y a la première chose, c'est qu'il l'a décidé, enfin, il a pris le goût de la médecine parce qu'il s'ennuyait tellement sur la plage de Berck-sur-Mer dans le Nord en été qu'il préférait aller à l'hôpital, regarder les malades et suivre les médecins dans les couloirs d'hôpitaux. Donc, il trouvait ça beaucoup plus distrayant que de rester sur la plage avec sa sœur. Et là, il a côtoyé beaucoup de médecins et il a compris très vite que la médecine était à une époque où de grands progrès. Pasteur avait découvert ce qu'on sait. Des travaux sur les microbes étaient faits et se développaient de façon considérable. Et très vite, il a compris qu'il y avait là un moyen d'être utile.
Alors, on va écouter la première chanson que tu nous as choisie, Jean Ferrat, Nuit et brouillard.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterais les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec une journaliste française, Nadège Forestier, qui a écrit un livre passionnant, Henri de Rothschild, un humanitaire avant l'heure. C'est son arrière-grand-père. On découvre cet homme passionnant. On découvre d'abord sa vie d'enfant très austère dans cette famille. On découvre qu'il ne rentre pas dans les critères de la famille, il ne devient pas banquier, il devient médecin. Et tu dis que c'est l'explosion de la médecine au XIXe siècle. Donc cet homme découvre beaucoup de choses. Il découvre le lait stérilisé. Parle-nous de ça.
D'abord, je voudrais te raconter comment il est rentré dans l'équipe du professeur Budin qui lui a permis de développer le lait stérilisé. Dès qu'il a passé ses examens de médecine, il est allé voir ce fameux professeur qui était l'homme qui a en quelque sorte créé la pédiatrie. Parce que jusque-là, Tout le monde était soigné à la même enseigne dans les hôpitaux.
Il n'y avait pas de pédiatre.
D'accord. Donc, il va voir ce professeur Budin, il demande de rentrer dans son équipe. Et Budin lui répond, écoutez, un Rothschild, ce n'est pas sérieux. Vous ne serez jamais là et moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un comme ça.
Il pensait à une vocation mondaine.
Exactement. Et Henri lui répond, écoutez, je vous garantis, prenez-moi à l'essai, vous verrez, je ferai toutes les gardes. Budin tente le coup. Et du coup, il l'envoie en Allemagne pour faire des travaux sur le lait. Il faut dire qu'à l'époque, le lait n'était pas sain et que les enfants qui n'étaient pas nourris par leur mère mouraient dans des proportions considérables, plus de 35%, je crois, au moins. Parce que sur les 600 000 litres de lait consommés chaque jour à Paris, 570 000 au moins étaient avariés.
Ouais.
Exactement. Et donc Henri regarde la façon de procéder, s'inspire de ce qui avait été fait avec la pasteurisation, découvre les prémices de la stérilisation, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, en Allemagne, l'importe en France et le développe à travers ce qui est devenu des gouttes de lait, à savoir des instituts ou des endroits où on stérilisait le lait et le distribuait aux enfants. Et cela a permis de faire baisser la mortalité infantile à 1 ou 2% contre beaucoup plus de 30%.
Alors, il a créé, je crois, et c'était sa première usine, parce qu'on verra qu'il en a créé beaucoup, une usine modèle de traitement du lait. C'est ça aussi qui est extraordinaire, parce qu'il ne s'est pas contenté seulement de découvrir le procédé, il a tout de suite créé une usine.
Exactement. Et pour le développer, parce qu'il voulait que tout ce qu'il faisait se développe. Mais en même temps, il n'était pas passionné
par... une fois qu'il avait créé, il se désintéressait un petit peu, non ? On va le voir.
Il se désintéressait à partir du moment où ça marchait bien.
Voilà. Mais alors, en fait, c'est un créateur.
Complètement.
C'est un sprinter, c'est pas du tout un coureur de fond.
Complètement.
On n'a rien compris.
Non, il fallait qu'il découvre des choses. Il avait le sens de détecter ce qui allait marcher. Et quand ça venait de la part de très petits inventeurs ou de gens complètement inconnus, il allait auprès d'eux, il regardait, il se disait qu'est-ce que ça va donner? Là, il y a quelque chose à faire, oui. Donc, il prenait l'invention, il la développait, il donnait les moyens et il en faisait vraiment quelque chose.
Mais là, sa goutte de lait, il l'a laissée à son associé de l'époque, je crois, un certain monsieur Hauser, qui s'est beaucoup enrichi avec cette affaire-là, puisqu'il a créé ensuite, il a distribué de l'épicerie, des salaisons, etc. Et puis de la crème, du fromage. Du beurre, pas seulement du lait. Et en fait, ça a été la fin de l'histoire pour Henri de Rothschild.
Oui, tout à fait. Mais à partir du moment où il avait fait ce qu'il voulait, à savoir faire baisser la mortalité infantile, pour lui, il fallait qu'il aille voir ailleurs, où il pouvait être plus utile.
Alors, il a été très utile. Il a créé son propre hôpital. Alors ça, c'est encore une autre aventure. Créer son propre hôpital, je crois, en 1903, les
Exactement.
Portes ont ouvert. Et il a soigné gratuitement les moins favorisés pendant plus de 50 ans. Il faut que tu nous
Tout
parles de cet épisode-là aussi.
Mais ça, c'était une époque où il n'y avait pas de sécurité sociale. Et en fait, où on pouvait se faire soigner quand on avait de l'argent. C'est pour ça qu'il a ouvert cet hôpital rue Marcadet à Paris. Il a démarré très petitement, avec très peu d'équipements et peu de chambres. Petit à petit, selon les besoins, cet hôpital a grandi. Il a soigné un peu toutes les disciplines. Et au point où il fallait faire très attention à ce que ne viennent que des gens qui étaient vraiment nécessiteux, qui en avaient vraiment besoin et qui n'avaient pas les moyens de se soigner.
Ça ne devait pas être simple de faire le tri, parce qu'à l'époque, on n'était pas aussi intrusif dans la vie privée des gens.
Non, mais
ça ne devait pas être simple.
C'était quand même dans un quartier où il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent et on arrivait à les détecter malgré tout.
Alors, parallèlement à ça, il a hérité en 1899 d'un hôtel particulier qui est 33 Faubourg Saint-Honoré à Paris. Il le vend en 1915. Il le vend au maréchal Foch et au comte Marc de Beaumont.
Pour en faire ce qui est aujourd'hui le cercle interallié.
Alors, ça, c'est assez extraordinaire aussi.
Oui, il faut dire que Il a mis, dès 1915, pendant la guerre, il a mis le rez-de-chaussée de son hôtel à la disposition des officiers étrangers de façon à ce qu'ils puissent se rencontrer. Et en 1917, ils se sont rendus compte, le maréchal Foch et le, qu'il fallait pérenniser ce petit groupe. Et en fait, lui, Henri de Rothschild, avait envie de quitter le Faubourg Saint-Honoré. Aujourd'hui, on se demande pourquoi.
Je trouvais que c'était très bruyant. Hein.
Et il voulait
c'est
quitter.
Ce que tu écris.
Exactement, il voulait le quitter parce que les autobus passaient dans le Faubourg. Et à l'époque, les pneus n'existaient pas. Ils roulaient sur les jantes, ça faisait un bruit infernal et des vibrations mauvaises pour les tableaux et pour les objets d'art. Et un jour, sa femme invite le préfet de police à dîner. Mais fait un test, elle met des piles d'assiettes sur des consoles et lui dit « Regardez, monsieur le préfet, comme il bouge et le bruit que ça fait, c'est infernal, il faut faire quelque chose. » Et le préfet dit « Non, c'est pas gênant du tout. » Et à la fin du dîner, elle se retourne vers son mari et lui dit « Il faut
on
partir,
déménage.
On déménage. » Et lui s'est dit « Ouh là là, quelle histoire !»
Mais il a une grande histoire, comme on va le voir tout à l'heure. Et en attendant, qu'est-ce qu'on écoute ? Une merveilleuse chanson. Barbara, dis, quand reviendras-tu ?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Radio Cité Genève, Viviane DeWitt,
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine avec Nadège Forestier qui nous parle de son arrière-grand-père, le baron Henri de Rothschild. Un humanitaire avant l'heure, c'est le titre du livre. C'est un livre formidable et on découvre ce personnage incroyable qui a fait tant de choses. Donc après être devenu médecin et avoir créé un hôpital, avoir imaginé la goutte de lait. Maintenant, il s'intéresse aux automobiles. Et les automobiles, à l'époque, ce sont des caisses malodorantes et bruyantes, et personne n'y croit tellement.
Ah, surtout son oncle Alphonse, à qui il a demandé est-ce que tu crois que c'est quelque chose d'intéressant. L'oncle lui répond non, absolument pas, ça n'a aucun avenir. Et lui se dit oui, mais pourtant, moi, ça me plaît. D'ailleurs, malgré son embonpoint, il était assez sportif et il voulait faire des courses automobiles. Il commence par passer son permis. Il a le permis numéro 5, ça venait d'être créé. Ensuite, il se lance dans des courses.
Ça, je crois que c'est en quelle année le permis déjà ? Ça m'a un peu fascinée parce qu'effectivement, j'ai lu ça. Il n'y avait pas beaucoup de permis à l'époque.
Non, le permis venait d'être créé, je crois.
1896,
chose comme ça. Et il a passé le cinquième. Et puis, il commence à faire de la vitesse, il se fait prendre et il est condamné à 10 francs d'amende et à un jour de prison. Et le juge qui le met en prison lui dit « Ne vous inquiétez pas, c'est désagréable, mais ce n'est pas déshonorant. » Donc, il fait son jour de prison, il ressort, il commence des courses automobiles, Paris-Monte-Carlo, Paris-Nice et d'autres. Il lance des défis à son cousin Lionel pour savoir qui arrivera le premier. Et très vite, il se dit « C'est bien gentil de faire des courses, mais dans le fond, il faut construire des voitures. » Alors, il commence par faire 5 voitures de grand luxe, il en garde une pour lui, selon sa conception, c'est qui lui plaisait. Il revend les 4 autres à ses copains. Puis il se dit l'avenir, il n'est pas là, l'avenir c'est dans les petites voitures. Et c'est là qu'il rencontre un homme et ils décident ensemble de construire des voitures avec des petits modèles avec des pièces interchangeables. Et c'est pour ça qu'il les nomme uniques. Donc ce sont les voitures uniques. Très vite, il en fait des taxis. Ces taxis aux couleurs Rothschild, c'est-à-dire jaune et bleu, parcourront les rues de Paris, mais aussi des grandes capitales de toute l'Europe, et cela jusqu'à la guerre.
Alors on a complètement oublié cette marque qui, je crois, a été revendue à Simca, puis à Fiat, c'est
exactement
ce que tu écris.
Ouais. Simca, Fiat, et ça s'est terminé après la Seconde Guerre.
Alors, fini les voitures, on voit qu'on part dans toutes les directions en quelque sorte. Cet homme est intéressé par tant de choses. On va parler maintenant de la lutte contre le cancer. Là, il intervient aussi.
Oui, alors là, il a eu un rôle, à mon avis, très important parce que ça dure encore aujourd'hui. À savoir qu'un de ses maîtres, le professeur Fournier, a été l'un des premiers à lui dire « Regardez, Marie Curie a découvert le radium. Le radium peut avoir un potentiel considérable pour soigner le cancer. » Le cancer, déjà à l'époque, était un fléau. Et ce professeur Fournier lui dit « Étudiez la question. » Donc Henri étudie la question et se rend compte qu'il faut fournir du radium à Marie Curie. Et pour cela, il crée une usine à Saint-Denis pour extraire...
Une autre usine.
Pour extraire du minerai, il fallait des tonnes et des tonnes de minerai pour extraire une infinie parcelle de radium. Et il arrive à fournir 1 gramme de radium à Marie Curie. Il le lui remet et surtout, il est très impressionné par tout ce qu'elle fait. Et il décide à ce moment-là de reporter sur Curie et sur la lutte contre le cancer toutes les autres charités qu'il faisait. Il avait créé une philanthropie pour le vin à l'époque du phylloxéra. Et là, il arrête tout, il remet tout sur Curie. Et il a été ainsi un des principaux donateurs du Curie.
Alors, autre chose aussi, où il exerce ses connaissances de médecin, il crée une pommade pour guérir les brûlures, l'ambrine.
Exactement. Alors, l'histoire de l'ambrine, il a procédé avec l'ambrine la façon dont il procédait toujours, à savoir qu'on lui a signalé qu'un petit monsieur avait créé une pommade à base de glycérine et de gaz qui était assez miracle pour les brûlures. Donc il est allé voir, il a regardé, il a été attiré là par sa femme Mathilde qui en avait entendu parler elle aussi. Il a étudié, il a vu qu'il y avait un potentiel très important et une fois de plus, il en a produit dans des quantités considérables. Tout ça se passait juste avant le début de la guerre de 14 où les brûlés par les gaz étaient dans des états épouvantables. Et cette ambrine a fait un bien considérable pour lutter contre les brûlures. Et c'est là où sa femme, Mathilde, a eu un rôle très important.
Je crois qu'elle a ouvert un hôpital à Compiègne.
Elle a ouvert un hôpital à Compiègne. Et ça paraît assez étonnant parce que sa femme était une ravissante jeune femme, intéressée par les arts, par les recevoir,
par la toilette, par
tout ce qui peut apparaître comme futile. Et en réalité, pendant la guerre, elle a été une véritable héroïne, à savoir qu'elle a ouvert cet hôpital à Compiègne. Elle a été trouvée, le ministre de la Santé lui a dit « il faut que j'ouvre un hôpital à Compiègne, aidez-moi ». Et une fois à Compiègne, elle trouvait que les brûlés ne venaient pas assez vite. Donc elle a affrété des taxis ou des ambulances plutôt. Elle allait chercher elle-même les blessés sur le front, les ramenait et les soignait.
On va écouter à nouveau ton choix musical, Guy Béard, Les couleurs du temps.
La mer est en bleu entre deux rochers bruns, je l'aurais aimé en orange, ou même en arc-en-ciel comme les embruns étranges. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde, le soleil, le vent, la rose des vents, le sens où tournera ma ronde. Et l'eau d'une larme, et tout l'océan qui gronde. J'ai brossé les rues et les bancs, paré les villes de rubans, peint la tour Eiffel, rose chair, marié le métro à la mer. Le ciel est de fer entre deux cheminées, je l'aurais aimé violine, ou même en arc-en-ciel comme les fumées de Chine. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde, le soleil, le vent, la rose des vents, le sens où tournera ma ronde, et l'eau d'une larme, et tout l'océan qui gronde. Je suis de toutes les couleurs, et surtout de celles qui pleurent. La couleur que je porte, c'est surtout celle qu'on veut effacer. Et tes cheveux noirs étouffés par la nuit, je les voudrais multicolores, comme un arc-en-ciel qui enflamme la pluie d'or. Changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Les mots que j'entends seront éclatants, et nous danserons une ronde brune, rouge et safran et blonde.
Radio Cité Genève.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans la bouteille à moitié pleine. Vous entendez parler depuis le début de cette émission aujourd'hui d'un homme absolument extraordinaire, Henri de Rothschild, baron Henri de Rothschild, l'arrière-grand-père de notre journaliste qui s'appelle Nadège Forestier, une journaliste française qui a écrit ce livre merveilleux, Henri de Rothschild, un humanitaire avant l'heure, aux éditions du Cherche Midi. C'est un livre passionnant. On découvre un homme qui sait tout faire, qui s'intéresse à tout, qui a les moyens de tout aussi. Et à un moment, on a vu qu'il avait quitté le Faubourg Saint-Honoré, qui était son hôtel particulier, qu'il l'avait laissé au maréchal Foch et au comte Marc de Beaumont. Mais il se fait construire un château de style 18e, le château de la Muette. Et ce château de la Muette va avoir un avenir important, pas dans la famille.
Évidemment, aujourd'hui, c'est l'OCDE. Il a été revendu à l'OCDE au lendemain de la mort d'Henri de Rothschild, qui est mort en 1947.
Alors, il s'intéresse également aux bateaux. Et là, c'est le prince Albert de Monaco, Albert Ier, bien sûr, qui l'emmène chasser la baleine, ce qui paraît extraordinaire pour des gens qui étaient assez écologiques. Aujourd'hui, on n'irait pas chasser ces pauvres baleines. Et il découvre le bateau, il se passionne pour la mer. Il rachète un bateau, l'Eros, voilà, 60 mètres hein, quand même, avec 37 hommes d'équipage. Et puis, il y a une avarie, raconte.
Alors, l'avarie s'est passée dans un des fjords dans le nord de l'Europe. Le bateau est arrêté. Il se dit, on peut le faire réparer, mais il n'a pas vraiment confiance. Donc, il décide de faire construire un autre Eros, l'Eros 2.
Qui est plus grand,
encore
d'ailleurs.
Plus grand, encore plus beau.
65 mètres, cette fois-là.
Voilà. Avec un seul inconvénient, mais à l'époque, il n'y avait pas encore la crise du pétrole, mais les prix du fioul ont augmenté ensuite assez vite, c'est qu'il avait une consommation, mais considérable. Cela dit, c'était un bateau absolument magnifique, dans lequel il pouvait recevoir énormément de monde, et sur lequel il a fait plusieurs fois le tour du monde.
La salle à manger pouvait contenir 32 convives, écris-tu. C'est quand même considérable.
Exactement. Et il y avait un très bon chef, parce qu'il était très gourmand. Ce qui
d'ailleurs,
explique son embonpoint.
La photo que tu as mise sur la couverture du livre montre un certain embonpoint sympathique.
Sympathique, mais qui lui a causé des torts. Parce qu'au début de la guerre de 14, quand il a voulu se faire enrôler, on lui a dit non, 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 vous êtes trop gros. Donc
ah bon
il est parti là aussi et il est rentré par la petite porte en allant sur le front porter la bonne parole et expliquer l'embrine. Bon, mais revenons au bateau.
Alors, il a fait aussi, il est devenu directeur de théâtre et il a même fait construire un théâtre.
Il a fait construire le théâtre Pigalle. Et ce théâtre Pigalle, il voulait, comme tout ce qu'il faisait, que ce soit le plus beau, le plus nouveau, le plus d'avant-garde possible. Donc, il a envoyé son fils Philippe à la recherche de tout ce qui pouvait être les matériaux, non pas les matériaux, mais les instruments hydrauliques pour...
Je crois qu'il y avait un système hydraulique et électrique qui pouvait changer le plafond.
Exactement, qui pouvait changer le plafond et qui pouvait surtout faire tourner les décors de façon à ce qu'on n'attende pas un quart d'heure entre deux scènes différentes.
Avec une scène de 21 mètres, écris-tu.
Voilà.
Tu vois que je t'ai vraiment lu, Nadège.
Je me rends compte. Et alors, il a aussi créé un concours pour l'architecture. Et c'est Georges Siclis qui a gagné, qui a été finalement le grand architecte de l'époque et qui a plus tard fait le chai de Mouton Rothschild.
Alors, justement, on va parler du vin. Parce que dans tout ce qui est de ce qu'il a tenté, essayé, construit, bâti, pas grand-chose n'est resté dans la famille, sauf Mouton.
Tout à fait. Et Mouton, pour être tout à fait honnête, il en avait hérité, ça lui appartenait, mais il ne s'en occupait pas énormément. En revanche, son fils Philippe, lui, qui allait en vacances au Pilat, donc tout à côté, trouvait qu'il y avait un potentiel considérable et qui n'était pas exploité. Et plusieurs fois, il est revenu à la charge en lui disant « Écoutez, papa, regardez, Mouton, vous ne vous en occupez pas et on peut faire des choses formidables avec Mouton. » Longtemps, Henri disait « Écoute, mêle-toi de ce qui te regarde. » Jusqu'au jour, il lui a dit « Écoute, puisque tu crois pouvoir faire mieux que moi, vas-y et je te donne les pleins pouvoirs. » C'est Philippe qui a fait le succès qu'on connaît de Mouton avec plusieurs idées remarquables. La première, c'est la mise en bouteille au château. La seconde, c'est de créer un vin de marque, le premier vin de marque qui existe, qui est Mouton Cadet, qui porte le nom de Mouton et de Rothschild et donc qui permet d'avoir des marges importantes. Et ensuite, surtout, qui a réussi à faire classer le vin dans le grand classement de 1855 qui marque le grand classement du Médoc.
Alors pour nos auditeurs, ils connaissent certainement le nom de la baronne de Rothschild qui a été la fille de Philippe et qui a développé considérablement Mouton elle aussi. Donc c'est une... Non,
non, ce n'est pas sa fille, c'est vraiment c'est sa petite-fille.
Ah, c'est sa petite-fille. Nadine était sa... Philippine, qui était actrice de théâtre au départ.
Était actrice de théâtre et a pris le nom de son grand-père. Parce que Henri de Rothschild, dont on parle, a aussi écrit des pièces de théâtre. Il les a écrites sous un pseudonyme qui était André Pascal. Et Philippine, sa petite fille, donc la fille de Philippe, a pris comme pseudonyme Pascal. Elle s'appelait Philippine Pascal et elle était sociétaire de la Comédie Française. Et quand son père Philippe est mort, à son tour, elle s'est complètement consacrée à Mouton et l'a encore développée en lui donnant une envergure internationale, en rachetant des vignobles et aux États-Unis, en Argentine, au Chili. Plutôt au Chili, pas en Argentine.
Ça, c'est une belle histoire familiale.
Magnifique histoire.
On va écouter Maria Callas dans La Traviata. Adieu.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans La bouteille à moitié pleine. Cette émission se passe avec Henri de Rothschild, décrit par son arrière-petite-fille, Nadège Forestier, journaliste française. C'est un humanitaire avant l'heure, comme nous l'avons vu, mais c'est aussi un inventeur absolument incroyable, tous azimuts. Alors raconte-nous toutes ces inventions successives, Nadège.
Alors, comme on le disait tout à l'heure, il avait un esprit perpétuellement en alerte, toujours ouvert, et qui était à l'affût de tout ce qui était nouveau et de tout ce qui pouvait avoir un avenir. Et c'est comme ça qu'il a découvert le chocolat en poudre. C'était un homme qui habitait Nancy ou dans les environs, qui avait eu l'idée de faire du chocolat en poudre. Et lui s'est dit, c'était une époque où il y avait encore beaucoup de pauvreté, il s'est dit, si on met du lait dans le chocolat en poudre, ça peut faire des petits déjeuners extrêmement nutritifs pour tous les enfants qui n'ont pas grand-chose. Donc, il a racheté la formule, créé Elesca, qui était finalement l'ancêtre de Nesquik, et Et étant donné qu'il était très ami avec Sacha Guitry, il lui a dit il faudrait trouver un slogan pour faire parler de LSK. Et Sacha Guitry a trouvé LSK, c'est Esky. Et à partir de là, ils ont développé toute une publicité. Là encore, c'était complètement d'avant-garde, parce que la publicité, c'était la réclame à l'époque, existait très peu et on ne vendait pas des produits à travers la publicité. Mais LSK, ça a été le premier à être vendu avec LSK, c'est Esky. Et il a recommencé quelques années plus tard avec Maï, quand il a racheté Maï qui était en perdition.
Donc la moutarde.
La moutarde. Il a demandé à son ami Sacha Guitry, il faut trouver quelque chose pour faire vendre Maï. Et Sacha Guitry, qui est allé dîner chez Maxim's, demande au maître d'hôtel, donnez-moi de la moutarde, mais de la Maï, bien sûr, il n'y a que Maï qui Maï. Et le slogan « Il n'y a que maille qui maille » est né comme ça.
Il a aussi inventé la mise en bouteille de jus de fruits.
Exactement.
Alors ça, c'est encore une autre histoire.
Drôle d'idée. Mais quelqu'un lui a demandé d'exporter du jus de raisin aux États-Unis. Il s'est dit pourquoi, mais pour exporter, il fallait mettre en bouteille. Donc il s'est dit exporter du jus de raisin aux États-Unis, ça n'a aucun intérêt, strictement aucun, d'autant plus que nous on fait du vin et que des jus de fruits, non. Mais du jus de raisin plutôt non. Mais en même temps, ça lui a donné l'idée de mettre les jus de fruits en bouteille. Et il a créé Verger. Et Verger, il le vendait notamment dans un bar sur les Champs-Élysées qui s'appelait le Pam Pam. Et il faisait faire par son cuisinier, parce qu'il l'appelait jamais chef, mais cuisinier, il faisait faire des gâteaux au chocolat et des tartes au citron. Et comme ça l'amusait beaucoup, il se mettait derrière la caisse et l'après-midi, il vendait des tartes au chocolat, des gâteaux et des jus de fruits vergers en bouteille.
J'imagine que les clientes ne savaient pas forcément que c'était le baron Henri de Rothschild qui était à la...
Alors, les clientes
derrière
savaient
le comptoir.
Pas. En revanche, ses petits-enfants venaient là. Et comme il s'y intéressait pas énormément, il les appelait monsieur ou mademoiselle, parce qu'il n'avait aucune idée de leur prénom.
Mon Dieu. Il avait été élevé de telle sorte qu'on peut comprendre aussi. Alors, qu'est-ce qu'il invente encore? Un parfum.
Isabelle.
Ça, c'est encore une autre histoire. Isabelle.
Mais oui, parce que Henri de Rothschild était un homme qui aimait les femmes. Et il trouvait que le...
C'est pas un grand défaut, ça, Nadège.
Non, c'est même plutôt une qualité. Et il trouvait que le sillage du parfum était quelque chose de très important. Donc, là aussi, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il a créé un parfum, Isabey. Et ces parfums Isabey existent toujours.
Quel esprit encyclopédique. Alors, ce qui me frappe le plus, c'est ça, c'est la partie où il a excellé, c'est-à-dire sa collection de livres et sa collection d'autographes. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Raconte-nous.
Alors, cette collection de livres, il en a hérité de son père. Et c'est vrai que quand il était tout petit, quand il avait 6 ans, jusqu'à la mort de son père, quand il avait 9 ans, le soir, il allait toujours dans le bureau de son père et il le voyait s'occuper de ses livres. Et c'est là où il a pris le goût des livres. Donc, quand son père est mort, sa mère a continué la collection et surtout lui également, en faisant les plus beaux achats. Et on dit beaucoup que cette collection de livres était la plus belle après celle de la reine d'Angleterre. Donc cette collection de livres se retrouve à Lausanne où il a passé les dernières années de sa vie. Et là, Jean Porcher, qui était à la Bibliothèque nationale, venait toutes les semaines s'occuper de cette collection de livres et lui disait il faut pas qu'elle soit dispersée. Et c'est comme ça qu'il l'a laissé à la Bibliothèque nationale quand
Donc
il est
l'a
mort.
Donné.
Il l'a donné.
On s'aperçoit à quel point cet homme qui a été un grand visionnaire, qui a été un grand créateur, un grand mécène, un grand humanitaire, comme tu l'as écrit sur le titre de ton livre, on s'aperçoit que tout a été dispersé de ce qu'il avait construit. Et au fond, à la fin de sa vie, seulement Mouton subsiste dans la famille. Tout le reste, au fond, s'est envolé, mais il n'en a pas été autrement affecté.
La fin de sa vie a été assez nostalgique, mais je pense qu'elle n'a pas été nostalgique pour cette raison-là. Elle a été nostalgique parce que, d'abord, il était malade, et surtout, avec la guerre de 40, il a dû fuir. Il est parti au Portugal, il a passé 4 ans au Portugal à épier un peu ce qui se passait pour sa famille qui était en danger. Donc c'était des années difficiles où il écrivait ses mémoires, il a beaucoup écrit. Puis à la fin de la guerre, il est rentré à Lausanne dans cette propriété Beau Cèdre. Et c'était vraiment une époque révolue. Mais je pense que sa tristesse ne venait pas du fait que tout ce qu'il avait entrepris n'avait plus de mise, en dehors de Mouton bien évidemment, et surtout en dehors de Curie, parce que Curie c'est quand même là un très très grand héritage. Mais je pense qu'il ne devait pas souffrir de tout cela, parce qu'en fait, il a toujours eu un esprit qui était très en avant. Et ce qui était passé ne l'intéressait plus. Ce qui l'intéressait, c'était l'avenir. Et je pense que si tristesse il y avait, la tristesse était plus de se dire que l'époque où il pourrait encore entreprendre était révolue. Mais ce n'était pas de revenir sur le passé.
Alors, Nadège, on arrive malheureusement au terme de cette émission. C'est trop court pour un homme qui a une carrière pareille, qui est un inventeur aussi prolifique. C'est un très beau livre que tu as écrit et je suis sûre que tous nos auditeurs vont se précipiter pour l'acheter. En tout cas, je leur conseille fortement. C'est donc par Nadège Forestier, Henri de Rothschild, un humanitaire avant l'heure, aux éditions du Cherche Midi, édition française. Je pense que ce livre est vendu aussi en Suisse et je pense que tu vas d'ailleurs en faire la promotion bientôt à Genève ou à Lausanne. Alors on t'attend. Bien entendu, on pourra même éventuellement, peut-être, refaire quelque chose sur place, puisque ici, nous t'avons enregistré à Paris. Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio Cité Genève. Et à bientôt, Nadège, pour d'autres aventures de la grande journaliste que tu es.
Merci infiniment, Viviane.
Et on remercie aussi Jackie Elsesser. Et bien entendu, on écoute Mozart, sonate pour piano en la mineure.